France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est une Bible, selon le New York Times, la Bible même de la communauté végane. Un livre paru il y a 35 ans aux États-Unis, traduit en France en 2016, réédité en janvier dernier. Un livre qui, sur le papier, a tout pour irriter, agacer, choquer même certains, puisqu'il montre, démontre l'imbrication, la consubstantialité même des représentations sexistes et spécistes, c'est-à-dire des représentations qui placent les femmes en dessous et les animaux en bas. Dans cet ouvrage, intitulé « La politique sexuelle de la viande », une théorie critique féministe végane, tout est pourtant établi avec rigueur. Et si vous l'ouvrez, comme le dit sa préfacière, la journaliste Nora Bouzani, c'est que, a priori, le lien entre les deux sujets dont il sera question, féminisme et véganisme, ne vous semble ni saugrenu, ni complètement aberrant. Alors adoptons la même démarche, le même esprit, avec l'autrice de ce livre passionnant. Bonsoir Carol G. Adams.
Good evening. Thank you for having me.
Bonsoir, merci d'être en France. Merci également d'être sur France Culture. Pardon. Vous êtes militante féminine antispéciste américaine et chercheuse indépendante. Votre ouvrage que je citais est réédité depuis le 24 janvier 2025 aux éditions du Passager Clandestin. Et merci également à Maud Morrison qui assure l'interprétation de cet échange.
Eh bien, les animaux sont les principales victimes de l'histoire parce que dans toute l'histoire de l'humanité, et Harari traverse en quelque sorte l'histoire de notre espèce, l'espèce humaine, nous avons toujours utilisé, exploité les animaux non humains comme des objets à utiliser un petit peu de la même façon dont nous avons esclavagisé certains peuples. Mais l'ampleur de ce que l'on fait aux animaux est bien plus large. Chaque jour, nous élevons et nous tuons 200 milliards d'animaux chaque année. Et le chiffre est astronomique, il est à peu près inconcevable, mais chacun de ces êtres vivants sont sentients. Ils ressentent de la douleur, ils souffrent et on les tue.
La voix de Peter Singer, reçue sur France Culture en 2024. Peter Singer, l'un des grands penseurs, pionniers même de la pensée antispéciste. J'ai lu, Carol Adams, que vous-même, vous aviez été sensibilisé à ce sujet. Un matin où vous aviez perdu votre poney, vous avez retrouvé votre poney mort, décédé. Et le soir même, en mangeant un hamburger, vous avez fait le lien entre les deux, entre l'animal et la viande, et vous vous êtes dit qu'il fallait arrêter.
Oui, I bit into the hamburger and I
thought, j'ai pris une bouchée du hamburger et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis hypocrite. Comment est-ce que je peux manger cette vache? Est-ce que c'est parce que je ne la connaissais pas? Parce que je n'aurais jamais mangé Jimmy, mon poney, qui repose mort, on va l'enterrer demain. Donc ça fait de moi une hypocrite. Mais je pense que ce processus de pensée a été facilité par la prise de conscience féministe qui considère que l'intime et le politique et vice-versa.
C'est là que j'allais en venir, voilà pour la naissance, l'histoire derrière la naissance de votre véganisme. Comment s'est rejoint justement cette pensée végane d'un côté et votre engagement, votre pensée féministe de l'autre? Comment s'est opéré le croisement entre les deux?
En 1974, je vivais à Cambridge et je me dirigeais à pied vers Harvard Square. Et j'étais en train de réfléchir au nombre de féministes qui étaient végétariennes. Je lisais de nombreux livres sur le féminisme, des livres qui mentionnaient la violence à l'encontre des animaux. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un lien entre le patriarcat et la consommation carnée et le féminisme. Mais le végétarisme, j'étais un peu comme sur un petit nuage.
Alors je voudrais qu'on entre dans le détail de ce livre qui est réédité en France et intitulé « La politique sexuelle de la viande ». Il faut le dire, c'est un livre scientifique extrêmement documenté. Ce n'est pas un essai ou un simple essai, ce sont des années de travail accumulées. Et ce que vous mettez notamment en exergue, Carol Adam, c'est que la consommation de viande est historiquement liée, associée même au pouvoir masculin. Il faut nous expliquer cette corrélation entre les deux.
There is a belief that eating meat is something that makes you more virile.
il y a cette croyance qui existe que la consommation carnée vous rend plus viril, plus courageux, plus masculin. Et d'ailleurs, on a vu la réaction aux propos de Sandrine Rousseau en 2022 qui suggérait de renoncer à la viande pour sauver l'environnement. Et qu'il ne fallait arrêter de considérer que c'était viril, mais c'est tout le sujet de la politique sexuelle de la viande. Nous avons greffé cette idée sur le genre que les hommes consomment de la viande.
Vous illustrez même cela avec la division des tâches dans les sociétés traditionnelles. Il faut nous réexpliciter une nouvelle fois cet exemple parce que là aussi, il est manifeste.
Il existe de nombreuses explications historiques pour la situation dans laquelle nous sommes. L'une, c'est l'homme chasseur, les hommes chassaient, les femmes cueillaient. Mais nous savons à présent que la majorité des protéines rassemblées par les femmes constituaient la majeure partie de l'alimentation. Donc cette théorie a été réfutée. On pense qu'en consommant des animaux puissants, nous devenions puissants, mais ce n'est pas vrai. On peut être tout aussi puissant en ayant la même alimentation que les animaux eux-mêmes. Mais ce mythe est si profondément ancré, et je pense que c'est lié au colonialisme. Nous pensons que la consommation de riz ou de tofu nous affaiblit. Mais c'est un mythe, mais qui est encore bien présent.
On va revenir sur l'affaiblissement, ou du moins sur la perception de l'affaiblissement qui entoure l'imaginaire vegan. Mais je reste un instant sur la dimension historique de votre travail. Vous expliquez que même historiquement, là encore, dans les situations de famine, ce sont les femmes qui se privent, qui s'auto-privent et qui laissent les hommes avoir un accès à la nourriture et notamment à la viande.
Yes. Throughout the world,
oui, effectivement, dans le monde, on croit que les hommes devraient avoir les meilleures protéines. Même au 19e siècle, en Angleterre, les femmes de la classe laborieuse ne consommaient pas les meilleures protéines ou considéraient comme les mêmes protéines dans leur foyer, même quand elles étaient enceintes et qu'elles avaient besoin de plus de protéines que les hommes. Même en situation de famine, cette croyance perdure.
Comment est-ce que vous expliquez le fait que le véganisme hérisse le poil de tant de monde aujourd'hui ? Comment vous expliquez que le sujet soit à ce point politique ? Quand je suis arrivé à la radio, le premier mois, on m'a expliqué, c'est Emmanuel Laurentin même qui m'a expliqué un soir qu'il y avait quelques sujets qui hérissaient le poil de beaucoup de monde et qu'il fallait évoquer avec prudence, il le disait évidemment avec un sourire, c'était notamment le véganisme. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Because vegans have figured out,
car les véganes se sont rendus compte que nous n'avons pas besoin de manger les animaux. Nous sommes la preuve vivante que nous pouvons nous rendre compte que les produits laitiers, les œufs et la viande sont des productions violentes. Et donc, nous souhaitons dire aux autres qu'il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Vous pouvez résister. Vous pouvez rejoindre un monde où le véganisme va de soi. Notre existence menace donc toutes les autres personnes qui souhaitent rester dans leur petit confort face à quelque chose qui est inconfortable, le fait de tuer des animaux.
Vous écrivez, Carole Adams, hein, face à cela, le féminisme et le végétarisme sont perçus comme menaçants puisqu'éliminer la chair revient à menacer la structure de la culture patriarcale au sens le plus large. Là aussi, comment vous établissez un lien si direct dans cette phrase, mais de manière beaucoup plus étayée dans le livre, entre le véganisme, l'attrait pour la viande et la situation, le système patriarcal ?
So I would disagree with Peter Singer.
Donc moi je ne suis pas d'accord avec Peter Singer. Les animaux sont les premières victimes, mais les femmes également. Dans un système patriarcal, les animaux et les femmes sont considérés comme étant inférieurs aux hommes, et notre conceptualisation de qui humain repose sur des caractéristiques mâles ou que nous considérons mâles, et les femmes sont souvent assimilées aux animaux. Il y avait avait des dénominations féminines et animales dans certaines lois qui n'avaient aucun droit. Nous traitons souvent de la même façon les femmes et les animaux. Il y a un aller et retour entre les deux. Il y a une connexion. Et les femmes et les animaux sont méprisés et c'est inscrit dans notre culture.
Sur les parallèles très forts que vous établissez, c'est évident après vous avoir lu Carol Adams, mais tout de même, les chiffres mis en exergue, encore une fois, par Peter Singer, on parle de centaines de millions d'animaux tués chaque jour, ce n'est pas le cas des femmes.
Right.
Oui.
Animals are terribly victimized.
Les animaux souffrent terriblement. Il ne s'agit pas des premières victimes. Dans une culture patriarcale, les femmes sont aussi victimes qu'ils ne sont pas autorisées à développer toutes leurs compétences. Elles sont vues comme des reproductrices, comme des ventres qui doivent procréer. Regardez seulement le cas des États-Unis. Il existe une réaction extrême à l'égalité homme-femme et on se retrouve avec Trump et des suprématistes d'extrême droite qui souhaitent que les femmes restent à la cuisine. Oui, les chiffres sont horribles, ce que nous faisons subir aux animaux l'est et tout cela s'inscrit dans un monde patriarcal.
Nous,
dans cette vision, les animaux doivent donner de la puissance aux hommes.
Je voudrais que vous reveniez sur l'un des concepts au cœur, au centre même de votre pensée, Carol Adams, celui de référent absent. De quoi s'agit-il et comment permet-il là aussi de penser le lien entre véganisme et féminisme ?
The absent referent.
Le référent absent est un concept littéraire que j'ai appliqué au statut des animaux. Les animaux disparaissent ou doivent être effacés. Ils sont effacés littéralement, ils sont tués et ils sont effacés d'un point de vue conceptuel. On change leur nom, on ne dit pas qu'on consomme des cadavres, on dit des cuisses de poulet ou un steak ou un hamburger. Et ils sont également effacés d'un point de vue métaphorique. Leur existence et leur statut est appliqué aux femmes. Dans le même temps, les femmes sont des référents absents dans une culture patriarcale, car on estime que leur objectification est acceptable, l'objectification de nos corps et leur consommation visuelle. Notre oppression est appliquée aux animaux et l'oppression à l'encontre des animaux est appliquée aux femmes. La catégorie viande renforce et étaye l'oppression des femmes en se basant sur le référent absent des animaux.
On perçoit bien, Carol Adams, hein, le référent absent des animaux. Lorsqu'on parle de viande, typiquement, lorsque j'ai face à moi un steak dans une assiette, j'ai du mal à percevoir l'animal qu'il y a derrière, le bœuf ou le cheval, peu importe. En revanche, on a plus de mal à comprendre cette notion-là appliquée aux femmes, appliquée aux féministes. Là aussi, il faut nous expliciter la façon dont vous faites le lien entre les deux.
Prenez de nombreuses publicités qui représentent des femmes. Souvent, on ne montre pas leur corps entier. Il leur manque la tête ou on zoome sur leur poitrine. Souvent, les publicités représentent un homme debout qui menace une femme, qui domine une femme de toute sa stature. Souvent, les femmes mettent leur taille en avant en appelant à être consommées.
Je voudrais vous faire entendre, Carol Adams, l'extrait d'un documentaire qui n'a jamais été diffusé pour l'instant, mais c'est un extrait d'un entretien mené par Pauline Chanu avec Florence Taureau-Lyon en décembre 2023. Florence a été victime de violences conjugales, de contrôles coercitifs, de menaces de mort à répétition de la part de son ex-mari. Et elle le raconte justement en faisant le lien entre cette expérience-ci et la façon dont elle a été objective. Animalisé plutôt.
Dès le départ, il me l'a dit. C'est moi qui ne l'ai pas entendu. Parce que quand j'ai voulu défendre son ex-épouse quand il divorçait, je lui ai dit à un moment donné, ne t'avise pas de faire avec moi ce que tu es en train de faire avec ton ex-épouse. Parce que je trouvais qu'il poussait quand même un peu loin malgré ce qu'il me racontait sur elle. Et il m'avait regardé droit dans les yeux et il m'avait dit, mais de toute façon, avec toi, ça n'arrivera pas. Donc je me suis dit, bah oui, effectivement, ça n'arrivera pas, parce qu'il m'aime tellement que jamais ça m'arrivera à moi, il me fera jamais de mal à moi. Il me dit, non, parce qu'avec toi, je te tuerai, toi. Il me l'a annoncé, c'est moi qui n'entendais pas. Quand il faisait un poulet le dimanche, quand on faisait un poulet, le fameux poulet du dimanche que je ne peux plus supporter, le poulet du dimanche, il découpait le poulet, il avait je ne sais combien de couteaux. Il avait un couteau qui s'appelait le désosseur. Et bien avec ce couteau désosseur, il disait à mon fils, tu vois ce couteau, un jour je découperai ta mère avec.
Des années après les premières menaces en 2014, Florence quitte son ex-mari violent. Deux mois plus tard, il a tenté de l'égorger sur son lieu de travail devant des collègues en disant « Les femmes, il faut les saigner ». Là aussi, c'est un lien évident avec la viande. Florence parle de poulet. Comment est-ce que vous analysez, vous aussi, cette situation et plus encore ce témoignage ?
Well, that's what a patriarchy does,
which voilà, is c'est ça le résultat du patriarcat. Le patriarcat ne criminalise pas les comportements contrôlants des hommes à l'encontre des femmes. Et la façon dont les hommes sont tués sert d'exemple parfait aux hommes qui veulent avoir de l'emprise sur leurs femmes. La violence à l'encontre des femmes est souvent basée, elle repose souvent sur les formes à l'encontre de violence à l'encontre des animaux. Souvent, cela ne va pas jusqu'au meurtre. Si cet homme avait réussi, il aurait tué sa femme de la même façon qu'un animal. Voilà, il est là, le référent absent. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Un autre exemple. Je connais une femme qui est venue me parler. Elle était étouffée, étranglée par son ami. Elle s'est dit, mon mari me dit qu'il m'aime, mais il va me tuer. Et moi, je lui ai dit, et moi, je mange des animaux, mais je les mange. Et dans cet instant, elle lui a échappé, elle a trouvé un moyen de lui échapper et est devenue végane dans le même temps. Donc les femmes voient l'existence de cette connexion.
Je sais que vous avez connaissance, Carole Adams, de l'existence du procès Mazan, de l'affaire des viols de Mazan. Et comment votre pensée peut permettre de mieux saisir, de mieux comprendre ce qui s'est joué dans ces viols terrifiants à répétition ?
Je pense
que plusieurs choses étaient à l'œuvre. Tout d'abord, elle était inconsciente. Et comme je le dis dans la politique sexuelle de la viande, il est beaucoup plus simple de violer ou de tuer une personne, un être inconscient, qu'une personne consciente. Deuxième chose à l'œuvre, son mari affirmait qu'elle était d'accord, qu'elle avait donné son consentement clair, mais une personne inconsciente ne peut pas donner son consentement. Cependant, nous vivons dans un monde sexiste et patriarcal qui accepte l'idée qu'une femme à l'horizontale est tout simplement disponible. Et tous ces violeurs ont accepté l'objectification de cette femme et la consommation de cette femme, pour reprendre les termes de mon livre, mais pas la consommation littérale.
Ce lien que vous établissez entre véganisme et féminisme, comment permet-il aussi de mieux comprendre, de mieux saisir le phénomène de la pornographie et son succès important, et j'allais même dire son succès croissant aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a deux approches. Tout d'abord, la pornographie est un comportement addictif, tout comme la consommation carnée ou de produits laitiers ou d'œufs. Les gens ne savent pas comment en sortir. Mais la pornographie et la consommation d'aliments d'origine animale partent du principe que les êtres consommés soit ont donné leur accord ou sont si inférieurs, leur statut est si inférieur que leur consentement ne compte pas.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme qui est aujourd'hui président des États-Unis, qui a été un temps publicitaire puisqu'il vendait ce qu'il appelait des Trump steaks, donc les steaks de Donald Trump. On écoute la voix du président des États-Unis.
Les steaks Trump sont de loin le bœuf le plus savoureux et le plus goûteux que vous ayez jamais mangé. Il s'agit vraiment d'une catégorie à part. Les steaks Trump sont des steaks 5 étoiles de qualité gastronomique qui appartiennent à une catégorie très très sélective de restaurants et sont certifiés Angus Beef Prime. Il n'y a rien de mieux que cela parmi tout le bœuf produit en Amérique. moins de 1% d'entre eux entrent dans cette catégorie.
It's the best of the best.
C'est le meilleur du meilleur.
Pas du tout certain de vouloir goûter le meilleur du meilleur, Carole Adams, mais est-ce que vous êtes surprise vous-même que Donald Trump fasse la promotion, la publicité de steak, qu'il en ait même apposé son nom sur une marque ?
So, two things about that. One is,
j'ai deux choses à dire. Tout d'abord, cette entreprise, ça a été un échec. Ils ont mis la clé sur la porte. Mais il a autant
de tort
sur les steaks Trump que sur l'Ukraine.
But also, he handed out meat sandwiches in 2016.
Il a distribué en 2016 des sandwichs à la viande pendant sa première campagne. Après toutes les primaires, les gens pouvaient avoir leur sandwich à la viande. Je voulais souligner que les suprémacistes blancs aux États-Unis, après l'élection de Barack Obama, ont fait un lien entre la suprématie blanche et la consommation carnée. Je pense que c'est là-dedans que puisait Trump, et je pense que c'est toujours à l'œuvre.
Il a autre chose pour vous plaire, ce président des États-Unis, c'est quelqu'un qui déteste les personnes véganes et qui a tendance même à les pathologiser. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit une constante dans le discours politique, dans le discours public, cette volonté de pathologiser le véganisme et les personnes véganes ?
Je pense que cela illustre la faiblesse de l'argument en faveur de la consommation carnée, parce que cela ne répond pas aux arguments des véganes et il est nécessaire d'en faire une attaque personnelle contre un individu plutôt que de le considérer comme un mouvement très puissant et qui s'appuie sur des arguments solides. Les personnes contre les véganes doivent en faire une pathologie, et si vous vous penchez sur les pathologies de la consommation carnée, finalement, là, vous avez des gens qui mangent des cadavres ou le résultat de la lactation d'une vache et ça ne leur pose pas de problème, alors que c'est un comportement pathologique, surtout au vu de la crise environnementale actuelle. Trump ne va pas nous aider à résoudre cette crise environnementale, mais les véganes, oui.
Vous prenez aussi, Carole Adams, le parti des hommes, puisque vous écrivez, je vous cite une nouvelle fois, en devenant végétarien et végane, les hommes s'opposent à un élément essentiel du rôle masculin. Alors que pensez justement de ces hommes qui deviennent véganes ? Est-ce qu'il faut éviter là aussi de les pathologiser ? Je suis sûr que oui.
We have to see that the gender binary that thinks that there's male and female,
la parité de genre qui estime qu'il y a des hommes et des femmes et que c'est immuable et que ça ne changera jamais, est à l'œuvre au sein de la politique sexuelle de la viande. L'assignation sexuelle de la politique sexuelle de la viande fonctionne également dans la binarité de genre. Donc tout homme qui, d'une certaine façon, s'y oppose et devient vegan remet en cause la binarité de genre. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de les pointer du doigt alors qu'ils font preuve de beaucoup de courage plutôt que de se pencher sur nos préjugés de genre.
Vous dites, vous écrivez même regretter que les féministes s'arrêtent à la question des femmes et ne vont pas jusqu'à une critique plus large du spécisme. Et on sent, en vous lisant, on perçoit du moins une forme de critique profonde à leur encontre. Est-ce que c'est un reproche direct ou non que vous leur formulez ?
Non, ce n'est pas un reproche. Mais je souhaite que nous passions, nous allions au-delà d'une analyse anthropocentrée du problème. Si les animaux sont liés aux autres êtres vivants, nous devons le reconnaître. Par exemple, il y a un panneau à Paris après la marche de la journée internationale des femmes à Paris que j'ai vu qui dit patriarcat et qu'aussi des féministes. Ça, c'est la politique sexuelle de la viande. Comment y réagir ? On ne peut pas se contenter d'être féministe. Il faut rejeter d'un même tenant l'écocide et la consommation d'aliments carnés et de produits laitiers. Cela fait partie de l'écocide.
Je le disais, pour beaucoup aux États-Unis, ce livre paru il y a déjà 35 ans est une bible. C'est le New York Times qui disait la Bible de la communauté végane. Qu'est-ce qui a changé en 35 ans ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre combat a progressé ou bien au contraire, quand on voit les résultats des élections, on parle souvent d'une façon un peu étrange, d'ailleurs je trouve, d'Amérique profonde. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore un gouffre entre ces écrits, votre pensée et la réalité sociale du monde ?
I think that equality is a very
Je pense
threatening
que l'égalité est un concept très menaçant.
And in practice, it
Et dans les faits, il a permis à, aux femmes, aux personnes racisées, aux lesbiennes, aux gays, aux personnes trans, de faire partie de la culture d'une façon nouvelle et excitante. Et l'élection de Trump illustre la menace que représente l'égalité. Mon livre a des répercussions et j'aime à penser qu'il donne toujours de l'espoir et la force de résister à ses lecteurs et de changer.
Merci beaucoup, Carole Adams, de cet échange, de cette discussion. Je sais que vous avez donné beaucoup, beaucoup d'interviews et d'entretiens cet après-midi. Merci d'être venu également ce soir à France Culture. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane. Il est préfacé en français par la journaliste Nora Boisouni. Et puis, je remercie également toute l'équipe de celles et ceux qui font les questions du soir. Stéphanie Villeneuve, Fanny Richer, Apolline Limosino, Pascaline Bonnet, Roxane Poulain, Mathias Mégy, Rodi Eken. À la réalisation, c'est François Richer, et aux manettes ce soir, c'était Jean-Guilain Meige. Merci également à Maud Morrison qui a assuré l'interprétation de cette discussion.